Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est dirigée par Charles de Meyer. Et comme je le disais à Laurie Chavanette il y a quelques instants, il y a 9 ans jour pour jour, nous enregistrions déjà ensemble. C'est un plaisir de vous retrouver, Laurie Chavanette, au micro de Radio Courtoisie.
Merci Charles de Meyer, plaisir de vous retrouver également.
Alors vous êtes romancier, historien, on vous lit également régulièrement dans la presse parce que l'actualité ne vous est pas étrangère et elle vous fait réagir. C'est un plaisir très régulièrement de lire vos tribunes, je pense notamment au Figaro dans lequel vous sévissez régulièrement. Et là vous nous venez avec « Les femmes entrent en révolution, 5 au 6 octobre 1789 aux éditions Talendier ». 3 questions liminaires, vous êtes déjà passé au grill de ces questions plusieurs fois, Laurie Chavanette. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qui vous a donné le goût de l'histoire ?
C'est plutôt l'histoire qui m'a choisi, pourrais-je dire, si je peux me permettre, dans le sens où ma famille a connu les tourments de l'histoire, que ce soit la proscription des Juifs allemands ayant fui le nazisme, et donc ayant transmis en partie cette histoire oralement, puisqu'ils ne sont pas décédés, donc j'ai eu la chance d'avoir de la transmission orale. Et puis de l'autre côté de la famille, la fuite, l'exode d'Algérie en 62. Donc deux moments où l'histoire de ma famille a dû recommencer à zéro, abandonnant tous leurs biens. J'ai toujours été proche de mes grands-parents qui m'ont raconté l'histoire. Mon père lui-même avait reçu ce bain de jouvence français, dont on peut s'honorer, puisque c'est tout de même notre antique cimetière commun. Et c'est important de le rappeler, de le transmettre aux lecteurs, mais aussi de père en fils, de mère en fille. Donc l'histoire chevillée au corps depuis toujours, j'ai envie de dire chevillée à l'âme.
Chevillée à l'âme, et on le voit aussi dans les choix de vos sujets, puisque là, vous investiguez à des moments cruciaux, à la fois de la construction nationale, de la projection mémorielle. Vous aimez bien les périodes charnières, les périodes délicates. Il est courant dans l'historiographie contemporaine de s'intéresser à la question de la journée révolutionnaire, de faire des études particulières sur les jours. Vous nous venez avec un 5 au 6 octobre 1789. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la genèse, sans trahir de secret, quoi que vous puissiez le faire si vous le souhaitez, du choix de cet ouvrage et de ces travaux?
Alors c'est vrai que j'étais à l'origine historien du droit, puis historien du politique. Je pense que les historiens ont besoin d'histoire sociale pour retranscrire les existences, mais aussi les institutions. Je crois que c'est les deux jambes avec lesquelles on peut avancer avec cohérence, sans tomber. C'est vrai que aussi j'ai beaucoup étudié la terreur. J'avais fait une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction prestigieuse de Patrice Guénifet. Cela m'avait pris 6 années d'étudier la France thermidorienne. Donc j'avais un peu étudié la période de la fin de la Révolution, quand on s'approche des derniers soubresauts, dernières réminiscences, en évitant bien sûr le 19e siècle. Tandis que là, j'avais envie de m'intéresser, depuis ces dernières années, à 1789, les origines, qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les droits de l'homme, qu'est-ce que la liberté. J'avais fait un essai chez Talendier il y a 3 ans, sur Mirabeau et le 14 juillet 1789, et puis autre journée révolutionnaire donc, les journées d'octobre 89, cette fois-ci avec les femmes en première ligne.
Quand on travaille sur ces journées, il y a évidemment le travail archivistique, le dépouillage des archives qui est présent dans ce livre, et j'espère que vous nous en direz quelques mots. Et puis vous faites partie de cette classe d'historiens qu'on a la chance d'avoir en France, qui font résonner tout ça, évidemment avec de la discussion, avec d'autres chercheurs sur le sujet, et c'est très présent, de la discussion avec les œuvres littéraires, et presque un travail d'histoire littéraire par moment, on le verra au cours de notre discussion. Comment vous abordez ce type de travail d'écriture, finalement, votre programme de travail, même si le terme est peut-être un peu malheureux, votre programme de travail, à quoi ressemble-t-il, Laurie Chavanette, avant de travailler un ouvrage comme celui-ci?
Disons que c'est l'équilibre difficile et parfois douloureux entre la raison et la sensibilité. Je n'exclus pas le sensible dans l'écriture de l'histoire. Le littéraire, pour moi, est d'abord sensible. J'aime la plume des romantiques, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, dans sa prime jeunesse, Nerval, etc. Et donc, j'aime glisser beaucoup de méditation aussi littéraire, donc philosophique, poétique, si possible, dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que j'ai une approche assez large qui permet de recentrer. Vous savez, c'est ce que disait François Furet, notamment. Il expliquait, lors d'un entretien, François Furet, historien de la Révolution française, très important dans la seconde partie du XXe siècle, qui expliquait qu'un auteur avait vraiment fait 90% de son travail quand il avait trouvé son sujet. Et donc, pour trouver son sujet, il faut lire de tout. Il faut s'inspirer de l'histoire de l'art, de l'histoire des archives, bien sûr, du travail archivistique, on y reviendra sans doute, de tout ce que l'historiographie, les historiens qui nous ont précédés, nous ont légué comme réflexion, comme controverse. Je crois que les controverses nourrissent énormément. Et donc, une fois que j'ai trouvé véritablement mon sujet, ici, sur les journées d'octobre 89, le sujet, c'est comment les femmes ont été les personnages principaux, les actrices principales de ce théâtre révolutionnaire déjà politique, où elles se mêlent de ce que l'on pensait ne pas les regarder. Et donc, j'ai trouvé que c'était ce contraste-là entre leur statut inférieur sous l'Ancien Régime et leur action politique solidaire, courageux, on le verra aussi, j'espère, en 89, qui méritait d'être fouillé. Donc oui, la recherche historique, mais aussi ne pas séparer l'histoire du sensible. Vous savez, vous avez fait un commentaire sur mes chroniques au Figaro, sur mes publications. Je crois aussi que l'histoire offre un regard sur le présent. Et parfois même le présent a un regard sur l'histoire. La subjectivité de l'historien, elle nourrit sa réflexion. Faire abstraction de toute subjectivité, je crois que c'est trop se cacher, se voiler derrière un masque de faits. L'histoire n'est pas une science exacte, c'est une science sociale, humaine, qui vit, qui respire, qui évolue avec son temps, et puis faire ressusciter ses acteurs, ses actrices ici du passé, ça m'enchante, ça me donne envie de me lever le matin et de me coucher tard le soir en écrivant.
Et en plus, ça permet à vos lecteurs de bénéficier de vos talents de portraitiste, qui sont bien, bien présents dans l'ouvrage. Il y a des face-à-face, vous le dites dès le prologue, il y a des face-à-face fascinants, et vous avez une immense qualité dans cet ouvrage, également, Laurie Chavanet, c'est que vous ne mettez pas à la vindicte, à l'index, aucune des actrices, si différentes soient-elles, et on va le voir, la confrontation sociale des mondes qui s'interpénètrent sans vraiment se comprendre, sont au cœur de ces journées. Et pourtant, vous avez une grande délicatesse à la fois dans le portrait, je viens d'en parler, mais également dans la manière dont vous essayez de comprendre la psychologie et les enjeux personnels des actrices que vous décrivez. Cette notion de face-à-face, elle est très présente dans cet ouvrage.
C'est vrai que j'avais fait un face-à-face un peu célèbre dans la Révolution française, Danton-Robespierre. Et puis, cette incarnation de l'histoire, je trouve qu'elle est très légitime, très nécessaire. Elle contient des fils rouges. Et puis, elle tient le lecteur en haleine un peu. Parce que quand c'est désincarné, c'est un peu aride, un peu trop brumeux dans la sphère des idées. Tandis qu'il n'y a pas d'idée qui ne soit pas incarnée par quelqu'un qui les défende, qui les incarnent, qui combattent pour elles. Et donc, c'est vrai que cette histoire, je ne vais pas seulement dire psychologique, ça compte la psychologie en histoire. J'admire énormément, par exemple, dans les journées d'octobre, on rencontre Marie-Antoinette. Et son plus grand biographe, c'est sans doute Stefan Zweig, qui a compris son âme, son voire même sa vie privée, sa sensibilité, parce qu'il est entré dans le portrait. Il s'est mis à la place de Marie-Antoinette, un peu pour essayer de comprendre les affres, malheurs et jouissances de son existence. L'historien doit trouver l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça. Trop vulgariser, trop psychologiser ou trop être factuel. C'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est de la cuisine, l'histoire, où l'on essaie d'harmoniser tout cela pour le rendre parfois très intellectuel sur les problématiques de la violence, du politique, de la démocratie, de l'immixtion du peuple souverain sur la sphère publique, et puis bien sûr aussi tout le domaine de l'enrichissement par l'humain de l'histoire. Ici, c'est vrai qu'on a un groupe de femmes qui s'animent de fougue pendant les journées d'octobre, et il y a aussi des portraits de femmes singulières, indépendantes, très différentes, Et là, c'est même plus de la cuisine, c'est un bouquet. C'est un bouquet garni de femmes. Et je crois que j'ai écrit aussi ce livre avec l'esprit et aussi avec le cœur.
Ce cœur, on le sent dans une irruption féminine. Ainsi écrivez-vous, Laurie Chavanet, dans votre prologue. En 1789, pour la première fois depuis plus de 2000 ans, on entend à nouveau parler des Amazones. Et c'est très important pour comprendre d'emblée le thème de notre discussion.
Les Amazones, c'est ce peuple mythologique, antique, où les femmes n'étaient pas au foyer, mais étaient sur le champ de bataille. C'était une armée d'Amazones, un bataillon d'Amazones et même un peuple d'Amazones. Bon, elles esclavagisaient les hommes pour juste en faire des géniteurs. C'est drôle, la différence avec justement l'opinion qu'on a eue des femmes à l'époque moderne. Et puis, ces Amazones, en réalité, elles se coupaient un sein, raconte-t-on, pour tirer à l'arc. Et donc, c'est des femmes très querelleuses, des femmes qui fortes, animées de courage. Ce n'est pas parce qu'elles peuvent peut-être, pour certaines, porter une épée plus légère que certains hommes forts, des vikings, etc., qu'elles ne savent pas se battre. D'ailleurs, dans le peuple viking, beaucoup de femmes font la guerre, sont enrégimentées, participent aux campagnes plus ou moins barbares des vikings. Donc, il faut retracer tout ce que la féminité a aussi de beauté, les femmes de lettres. Les portraits de femmes de lettres sont tellement, tellement beaux, tellement riches. Il y a une plume depuis toujours, même la Pompadour, Madame de Sévigné, Georges Sand.
Madame de Staël dans la période.
Madame de Staël à cette époque que l'on recroise en 89. Il y a aussi les femmes du travail quotidien, dont le travail quotidien est toujours lié aux politiques, par l'économie, le social, le pain. Le pain est un sujet politique à part entière, avec les différentes inflations. Et puis aussi, il y a les femmes braves qui veulent se battre, parfois se battre contre les préjugés, se battre contre des hommes. Et ça a beaucoup choqué quand des femmes prennent les armes. C'est une révolte qui est hors de la nature à laquelle on veut les limiter.
Aussi écrivez-vous, hier comme aujourd'hui, chacun d'entre nous, selon sa sensibilité politique ou philosophique, peut trouver parmi ces trois types féminins ses héroïnes propres. Marie-Antoinette est la reine des royalistes. Olympe de Gouges, Manon Roland et Thérouanne de Méricourt sont les figures du républicanisme. Quant aux poissardes de Paris, elles sont devenues la voix des démocrates. Toutes peuvent incarner, chacune à leur manière, les valeurs du féminisme. Avec les événements d'octobre, le temps où on qualifiait les femmes de sexe timide et faible est révolu. Et ça, c'est très intéressant dans ces journées, c'est que personne n'est faible chez les femmes que vous présentez. Marie-Antoinette n'est pas faible du tout, et on le verra, prend un rôle politique parfois supérieur à son mari, ou de sauvetage de sa famille au sens de des droits de sa famille est particulièrement important. Thérouanne de Méricourt est fascinante par sa curiosité et son audace, et vous travaillez, et quelques mots là-dessus, non pas une réhabilitation, ce n'est pas le terme exact, mais plutôt une exploration de la thématique des poissardes, dont vous montrez qu'elles sont bien plus complexes que l'image, j'allais dire, un peu méprisante qu'on pourrait avoir gardée d'elles.
C'est vrai qu'on retrouve ces différents portraits de femmes, la reine, de la reine de France aux poissardes, il y a un monde qui les sépare. Pourtant, régulièrement, la cour recevait les poissardes à Versailles ou encore au château où se trouvait la cour avant Louis XIV, depuis Saint-Louis. Puisque les poissardes, qui sont-elles ? Ce sont les marchandes de poissons de la halle de Paris, du centre de Paris, qui fournit tout Paris en vivres. Les poissardes sont donc au cœur du ventre de Paris, au cœur du processus d'alimentation de la population. Elles ont une fonction sociale, économique et même politique reconnue par le trône. Puisque depuis Saint-Louis, elles constituent une corporation qui a ses entrées à la cour, je disais, lors d'une naissance ou d'un mariage royal, princier. Les poissardes étaient invités à venir présenter leurs compliments à la reine, avec un bouquet de fleurs en général, et elles étaient reçues à déjeuner ou à Versailles, au château, ce qui crée aussi donc des proximités entre ces deux mondes, si opposés, bien sûr, si contrastés, et qui parfois se retrouvent. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ces femmes indépendantes qui sont une forme de tampon entre deux mondes. C'est bien sûr les femmes de lettres. Madame de Staël est, par exemple, la fille du ministre des Finances Necker, et elle est témoin de cette histoire des journées d'octobre, qu'elle retrace dans ses considérations sur la Révolution française, dans sa correspondance, et elle est très consciente d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et elle est d'autant plus digne de s'opposer plus tard, par exemple, à Napoléon. Il y a d'autres femmes, comme Olympe de Gouges, qui, elle, est issue d'une petite bourgeoisie de Montélimar et va monter à Paris pour faire fortune dans les lettres, au théâtre. Et donc, elle va être très... C'est une voix dissonante en son temps, et personne ne l'entend. Et de fil en aiguille, il y a... On reviendra peut-être plus tard à Théroigne de Méricourt, mais j'ai aimé cette idée que, de ces contrastes-là, naît une harmonie. Et pour construire un récit, si vous voulez, il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas de récit, il n'y a pas de poésie sans contraste, sans paradoxe. Et donc, ce sont ces paradoxes que j'ai voulu ressusciter de 1789, où la révolution est née par des lumières qui sont faites par des hommes, le siècle des encyclopédistes. De même, la révolution politique de 89 à l'Assemblée, il n'y a que des hommes qui sont élus. Je ne fais pas d'anachronisme, il n'y a pas de féminisme authentique à cette époque. Il y a des femmes qui ont cette énergie de plaider leur cause, leur sexe, pour montrer qu'elles ne sont pas timides par nature et que ça dépend des individualités. J'aime la notion d'individualité dans l'histoire, comme Bainville, d'ailleurs, aimait cela. Et puis, pour autant, ce sont ces femmes qui vont créer le tournant de 89. Certaines ont participé à la prise de la Bastille, le 14 juillet, mais d'autres vont véritablement s'animer en tant que groupe social en octobre pour monter sur ce théâtre, je disais, du politique, de l'histoire. Elles n'enfantent plus seulement des enfants, elles enfantent de l'histoire.
Et il est important de montrer que s'il y a cette irruption des femmes dans ces journées, ce n'est pas une irruption qui n'intéresserait qu'elles, c'est une irruption qui fait ce moment révolutionnaire. Pour vous, à partir du moment où la famille royale et l'Assemblée nationale finissent par s'installer à Paris, on va en parler, c'est une véritable bascule de la Révolution. Elles ne sont donc pas actrices simplement de leur propre histoire ou de leur propre révolte, elles sont actrices d'une inflexion très importante dans ce moment ô combien fondateur de notre vie nationale.
C'est ce que disait d'ailleurs Raymond Aron, les hommes qui font l'histoire ne savent pas l'histoire qu'ils font. En réalité, ces femmes d'octobre qui font l'histoire ne savent pas l'histoire qu'elles sont en train d'écrire. D'ailleurs, elles ne viennent pas à Versailles à l'origine pour obtenir la ratification de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elles ne viennent pas pour des motifs exclusivement politiques. Elles ne revendiquent aucun droit pour les femmes. C'est juste leur action qui incarne cette irruption, comme vous dites, qui va avoir du sens a posteriori. Donc ces femmes d'octobre vont enfanter l'histoire, comme je le disais, parce qu'elles demandent du pain, elles ont faim, il y a une crise, une famine, une disette terrible qui frappe le pays, pour plusieurs raisons d'ailleurs, donc c'est le premier volet économique et social, pour plusieurs raisons il y a cette crise économique qui les force, elles n'ont pas envie d'aller à Versailles forcément sous la pluie, dans le froid, elles sont forcées d'y aller parce qu'elles ont faim, parce que leurs enfants ont faim et parce que le pain aux queues de boulangerie est rare, extraordinairement cher, et il est de mauvaise qualité. Et le pain, c'est la moitié de l'alimentation de ces couches populaires, de travailleuses de Paris. Et donc, elles sont braves, elles sont légitimes aussi à se dresser. Qu'est-ce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille, comme disent les Anglais, une personne affamée est une personne en colère. Et donc, ces femmes sont en colère de travailler et pour autant de ne pas arriver à subvenir aux besoins vitaux de leur propre foyer, de leur propre famille. Il y a de quoi, c'est vrai, s'animer de rage. C'est très différent de notre époque, où tout est quand même assez organisé, l'assistance sociale, etc. À l'époque, ce n'est pas aussi clair que cela. La famine peut frapper, une mauvaise récolte peut faire mourir des gens dans les villes et dans les campagnes. Et donc, ces femmes s'animent d'abord de rage économique, sociale, et puis aussi, il y a une demande politique, vous la signifiez, c'est l'exigence de ramener le roi, la cour, à Paris. C'est ça le tournant d'octobre, ça va être in fine l'installation de la cour, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, donc les députés, à Paris. Et depuis, ils y sont toujours restés. On doit aux femmes d'octobre 89, si l'on y pense bien, d'avoir installé sur les bords de la Seine l'exécutif et le législatif. Et depuis toujours, ils y sont restés. Personne n'a voulu revenir à Versailles. Y a Napoléon allait parfois à Royal Malmaison ou à Fontainebleau, etc. Mais le pouvoir exécutif, législatif, est toujours resté à Paris. C'est aux femmes qu'on le doit. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, c'est un fait historique têtu.
Ce fait historique, il naît d'un événement qui pouvait paraître anodin et qui peut parfois paraître anodin dans les récits qu'on fait de la Révolution française. C'est la fameuse fête apprise dans la presse le 3 octobre 1789 qui est donnée par les soldats du roi, je crois au régiment de Flandre, si je ne m'abuse, qui arrive à Versailles. Alors souvent, on a une présentation un peu légère de cette soirée. Et pour vous, ce qui est important de noter, c'est que c'est un événement politique essentiel, non seulement par l'intelligence qui en est faite de ceux qui en apprennent la nouvelle, mais également par la famille royale, et en l'occurrence une femme qui fait une erreur, ou qui se laisse emporter dans une erreur à cette occasion, c'est Marie-Antoinette. Pourquoi est-ce si important de comprendre cette fête-là ?
Alors j'avoue avoir tenté de mettre le doigt dans la plaie avec ce banquet des gardes du corps du roi offert au régiment de Flandre qui venait d'arriver à Versailles et que Louis XVI avait appelé. Parce que, rappelons-le, après la prise de la Bastille, les troupes, les 50 000 soldats que Louis XVI avait appelés à Versailles et Paris, sont quelque peu disséminés dans le royaume et renvoyés à leur pénate locale. Et ensuite, les troubles économiques et sociaux dans les rues de Paris, pour les questions de disette, pour des questions d'ordre aussi, d'autorité, font qu'il y a un besoin d'autorité, à nouveau, d'ordre, à Versailles et dans la capitale. Et Louis XVI, donc, appelle des soldats afin d'assurer l'ordre public. Il n'y a pas de menace d'un coup d'État à ce moment-là, anti-parlementaire, contre les députés, en train de discuter la nouvelle constitution à être adoptée, là, qui sera la constitution de 1791. Et donc, lorsque ces soldats, ces officiers, ces troupes arrivent à Versailles, déjà, il faut les nourrir. Et puis, il faut s'assurer pour la cour leur amabilité, qu'elle soit serviable, qu'elle soit bien royaliste, comme on le souhaite. Tout le royaume est royaliste, hein. Tous les Français sont royalistes, à part deux, trois journalistes qui sont allés faire la guerre d'indépendance aux États-Unis où est née une république. Tout le monde est royaliste en France, que ce soit clair. Ce n'est pas 89 n'est pas anti-royal. Et donc, ces soldats, on leur décerne l'honneur d'organiser, non pas dans un lieu de spectacle en forêt, mais au sein même du château de Versailles, dans la salle de l'opéra, qu'on appelle à l'époque la salle des spectacles, où Marie-Antoinette s'est mariée, qui est toujours restée dans son jus, dans son décorum. Elle n'a pas changé depuis. Et c'est dans cette salle que se tient le banquet des gardes du corps et du régiment de Flandre. Alors c'est vrai que ce qui est magnifique dans cette salle de spectacle, c'est très exceptionnel pour l'époque, c'est qu'on peut élever la scène, élever de sorte que le plateau fasse quelques 80 mètres pour organiser des bals et des fêtes. C'est pas seulement une salle de spectacle où on assiste assis à une représentation, c'est d'un coup le public qui devient la représentation même, puisque ça peut devenir une grande salle de spectacle avec un grand parquet, une grande scène. Et ainsi, ils sont quelques centaines de gardes à festoyer, on leur sert le meilleur vin, on leur sert les meilleures victuailles. Et disons qu'il y a tellement à boire et à manger que pendant 3 jours consécutivement, ensuite, midi et soir, ils pourront à nouveau faire ripaille, tellement on a commandé de vin. Alors qu'à Paris, on meurt de faim. Donc premièrement, il y a ce scandale de l'inégalité, bon, ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui, la distance abyssale qu'il y a entre des soldats qui mangent à leur faim, bien évidemment, c'est légitime, et un peuple qui, à Paris, lui, fait la queue aux boulangeries sans rien avoir. Donc, premièrement, c'est choquant de ce point de vue-là. Ce qui est choquant, en plus, c'est que la famille royale est venue assister. Parce que depuis le 14 juillet, toute la cour avait fui. Si l'on pense aux différentes amies de Marie-Antoinette, de Louis XVI, le comte d'Artois n'est plus là, la Polignac n'est plus là, etc. Marie-Antoinette et le roi s'ennuient à la cour. Bon, le roi, encore à nouveau, ce 1er octobre 1789, est allé chasser. Et quand il revient de la chasse, il y a son épouse qui le presse de venir au bal donné par les officiers, où il y a un orchestre, des victuailles, on entonne des musiques, des chants, il y a quelque chose à voir. On n'est pas obligé de lire dans reclus dans ses appartements particuliers. Il y a effectivement un spectacle qui est un bal. Et le roi et la reine viennent donc donner leur caution à ce qui sera qualifié d'orgie plus tard dans la presse à scandale parisienne qui va grossir les traits. Là aussi, ça existe depuis toujours. Voyez-vous, la presse qui amplifie des faits divers, c'est un fait divers en fait, un banquet. Mais ce fait divers va avoir une connotation politique à partir du moment, premièrement, où il y a cet écart de fortune et d'alimentation entre Paris et Versailles. Deuxièmement, la venue de la famille royale. Et troisièmement, plusieurs soldats, plusieurs gardes pris de boissons commencent à donner libre cours à leur folie en insultant la cocarde tricolore, en refusant de porter un toast à la nation. Est-ce que ce sont tous les gardes? Est-ce que c'est un garde en particulier? On a fait un monument de cet épisode, bien sûr. Mais c'est là où l'erreur, elle est colossale. C'est qu'en même temps qu'on avait organisé cet événement, cette fête, au sein même de l'Opéra de Versailles, on n'a pas fermé les loges du château, de l'Opéra. Ce qui fait qu'il y a la salle où tout le monde s'adonne à cette orgie, et puis de l'autre côté, il y a le peuple, la foule, les jolies femmes, des députés qui viennent assister dans les loges, dans les tribunes, en quelque sorte, à cet événement. Et donc, tout sera relaté le lendemain. Il n'y a plus de société d'opacité où tout était caché comme avant à la cour. Désormais, c'est quelque chose de très transparent. C'est la vie vibrante de l'opinion publique, des journaux, de la presse, des pamphlets. Et bien sûr, ça va faire scandale. Et c'est ce qui va donner l'étincelle à l'explosion d'octobre 89.
Nous allons nous retrouver pour parler de cette étincelle et de ce qui l'a permis avec Laurie Chavanet qui publie « Les femmes entrent en révolution 5 au 6 octobre 1789 » aux éditions Talendier. Mais d'abord, une petite pause musicale proposée par Claudia. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles Demeyer vous retrouve avec Laurie Chavanet qui publie « Les femmes entrent en révolution 5-6 octobre 1789 » aux éditions Talendier. Il y a donc cette erreur politique, Laurie Chavanet, qui est aussi une erreur de manque de perception entre le monde de Paris et le monde de Versailles. Il y a en même temps un événement politique au plus long cours qui se déroule, c'est le rapport entre Louis XVI et l'Assemblée nationale, notamment avec le fait que Louis XVI ne veut pas ratifier une partie des décisions prises par l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et à quel point cela finira par s'imbriquer dans ces journées du 5 et 6 octobre 1789?
Alors, il faut savoir que l'Assemblée des États généraux est devenue constituante, c'est-à-dire qu'elle rédige une constitution. Elle a adopté deux décrets considérés comme constitutionnels, essentiels, et que nous connaissons tous aujourd'hui, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen notamment, et l'abolition des privilèges. Louis XVI a le droit de veto sur les textes de la Constitution. Et on lui a accordé un veto suspensif, à la demande de Mirabeau, etc. Louis XVI peut faire traîner l'affaire, il peut suspendre donc l'adoption de ces textes. Et donc il refuse d'apposer son sceau sur ces deux textes solsticiaux, fondamentaux de notre histoire politique et juridique, la Déclaration des droits de l'homme et l'abolition des privilèges. Bien sûr, l'Assemblée veut vaincre cette résistance. Quel est le but de la résistance de Louis XVI sur ces deux textes ? Il ne veut pas appauvrir son Église, il veut, qui a la charge, alors à l'époque quand même, d'éducation, de santé, d'assistance publique. Donc il dit comment l'Église va faire pour maintenir cette responsabilité-là, sociale notamment. De l'autre côté, la noblesse, Louis XVI est noble parmi les nobles, c'est le premier des nobles, si l'on peut dire. Il voit d'un mauvais œil cette égalité des droits, dans laquelle et pour laquelle il n'a pas été élevé. Il est élevé dans une éducation très monarchiste, très absolutiste, où théoriquement il a la souveraineté exercée héréditairement de façon absolue, et puis il est entouré d'une cour de grands du royaume. Eh bien, la Révolution française de 89 détruit cela pour niveler, en quelque sorte, les citoyens, les ramener à l'égalité devant la loi. Louis XVI s'oppose à cela. Pour des questions religieuses, politiques, sociales donc, et l'Assemblée veut vaincre cette résistance. Pendant plusieurs semaines, les députés exigent de Louis XVI, argumentent, envoient des ambassades plaider la cause des décrets constitutionnels. D'ailleurs, Barnave, un des auteurs les plus célèbres de la Révolution française, député, dit que ces décrets de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'abolition des privilèges étaient si importants que Louis XVI ne pouvait pas mettre son veto, parce que c'est du domaine du droit naturel. C'est-à-dire, les hommes sont égaux devant la loi, les hommes sont libres de naissance, Louis XVI n'a pas son mot à dire, c'est la nature, c'est quelque chose de supérieur qui empêcherait Louis XVI d'exercer sa volonté. La volonté serait supérieure. Alors, pas forcément divine, mais naturelle. Voilà, c'est le droit naturel moderne, depuis Grotius, etc. Et donc, les députés mènent une lutte politique. Et ils sont impuissants devant la résistance de Louis XVI. Or, le 5 octobre 1789, au matin, Louis XVI donne son interdiction de ratifier la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il appose officiellement son veto de façon explicite et argumentée. Au moment même où Paris est en train de s'embraser après l'affaire des gardes, etc. Et donc Louis XVI manque d'intelligence politique, puisqu'à chaque fois, il sera obligé de céder après coup à des choses que la dynamique des événements allait le contraindre de toute façon à adopter. Et donc Louis XVI fait de la résistance sans être efficace, et donc il est doublement critiqué. On suspecte donc une opposition à la Révolution, aux idéaux de 89, alors que Louis XVI est un souverain tout à fait qui peut concilier la Révolution avec son éducation. C'est possible, c'est ce que lui demandera Mirabeau. Bien sûr, Marie-Antoinette, elle, est de l'autre camp, est plutôt opposée à ce qu'il soit le roi de la Révolution, comme disait François Furet. Et donc Louis XVI, en faisant de la résistance, précipite l'hystérisation de la Révolution. Et même cette possibilité, à savoir que ce soit les députés de 89 qui aient potentiellement organisé les journées d'octobre afin de forcer Louis XVI à ratifier les décrets. Parce que lorsque le droit est insuffisant, on emploie alors les moyens de la force. C'est regrettable. Mieux aurait valu une révolution qui se serait faite par le droit. Malheureusement, la Révolution française s'est faite par la force, par la violence. Pas seulement à cause de la radicalité du personnel sans culottes de 89, parce que les sans culottes naissent au moment de la terreur, un peu plus tard, mais des masses populaires, ouvrières et poissardes de la Révolution, mais aussi à cause de la bêtise, pourrions-nous dire, et de la faiblesse de caractère et d'intelligence de la cour elle-même, du trône, qui précipite la Révolution dans la tourmente.
Cette révolution va se précipiter dans la tourmente. Cependant, les femmes qui commencent à s'assembler à Paris le font, on peut le dire, pour deux raisons. Dites-moi si je suis un peu simpliste. La première, et vous l'avez dit, c'est le prix du pain qui est dans une situation terrible, avec la question des accapareurs qui joue un rôle. Et puis cette détestation de Marie-Antoinette au sein de ces masses féminines, dont vous faites une large analyse. Vous dites quelque part que c'est sans doute le personnage politique qui a connu à ce moment-là de l'histoire de France la plus grande férocité à l'encontre de sa personne.
Ça fait longtemps que Marie-Antoinette n'est plus la jeune, souveraine, innocente, qui allait de balle en balle et qui était encore au début de son règne appréciée par les Parisiens et les Parisiennes. Au moins, elle venait à Paris, même si c'était masqué souvent de nuit pour faire la fête. En tout cas, Marie-Antoinette, depuis l'affaire du collier, de la reine, magnifique roman d'Alexandre Dumas d'ailleurs, depuis aussi les suspicions de proximité avec la contre-révolution en 88-89, Marie-Antoinette est l'objet d'une cabale dans la presse et d'un dénigrement, de publication qui tendent à humilier non seulement sa figure politique, c'est-à-dire l'autrichienne, celle qui incarne le parti aide de l'étranger, et puis de l'autre côté, la figure féminine de la femme indépendante, de plaisir, qui dépense beaucoup trop d'argent et qui corrompt le roi et la cour. Bien sûr, beaucoup de choses sont fausses dans ces accusations. Pour autant, Marie-Antoinette, il y a toujours du vrai dans les mythes, il y a toujours un ressort de vérité. Marie-Antoinette, par sa conduite, qu'on le découvre dans sa correspondance, est très en détestation de tout ce qui se passe en 89. Comment ne serait-ce pas le cas ? Cela vient détruire, ravager son monde, son monde intérieur, ses idées. Elle aussi était éduquée à la cour de Vienne.
Ouais,
c'est pas
dire.
Rien, c'était pas entre Versailles et la cour de Vienne. Elle était quand même en tête de gondole des grandes cours baignant dans une munificence exceptionnelle. Et puis, Marie-Antoinette est donc très prise à partie par notamment les femmes de Paris. Il faut savoir qu'il y a une anecdote que j'aime beaucoup. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que les poissardes étaient régulièrement invités au château pour présenter leurs hommages. Il y a notamment le 25 août 1789, c'est-à-dire entre les journées d'octobre et la prise de la Bastille, les poissardes sont invités à présenter un bouquet à la reine pour la fête de Saint-Louis, le 25 août. Et la reine se serait mal comportée à leur égard, leur aurait jeté un regard désagréable. Bref, les poissardes sont retournés à Paris avec un sentiment d'aigreur dans la gorge et ont bien sûr amplifié cette suspicion de détestation de la reine dans le Paris révolutionnaire ouvrier et des marchands. Et puis encore, j'ai découvert effectivement en archive que la marche sur Versailles pour des questions de pain économique a aussi une vocation politique, c'est-à-dire faire rendre gorge aux gardes qui auraient insulté la cocarde nationale lors du banquet du 1er octobre, et deuxièmement, humilier la reine, voire, comme on disait parfois à l'époque, faire des cocardes avec ses boyaux. On veut véritablement exercer sur la reine une violence on ne sait pas si c'est la tuer, pas la tuer, si c'est l'humilier ou pas, on ne sait pas ce qui se serait passé si les poissardes s'étaient saisis de la reine. Mais en tout cas, il y a une virulence exercée à l'égard de la personne royale de la reine, ce qui atteint le roi, bien sûr, par ricochet. Et j'ai trouvé ces phrases, parce que j'ai retrouvé tous les témoignages sur des poissards, des acteurs de cette époque.
Vous en faites des citations abondantes, d'ailleurs.
J'en fais des abondantes, c'est vrai.
Et c'est passionnant.
Notamment une que j'aime beaucoup, ce sont les poissardes qui chantent en allant à Versailles le 5 octobre. Elles disent « La reine a dansé jusque-là pour son plaisir, elle va maintenant danser pour le nôtre ». Et il y a donc cette idée de vengeance, presque de justice des Érinides, des Euménides, du théâtre antique, de Sophocle, Ripide, où ce sont des femmes qui s'animent d'aigreur et de colère au nom d'une idée de justice. Leur idée de justice, bien sûr, moi je ne suis pas là pour dire qui a raison ou pas, sans doute ceux qui sont trop violents ont tort, voilà, on peut dire ça, mais ces femmes-là affamées vont vouloir agir de façon humiliante, indélicate, voire violente à l'égard du corps de la reine. C'est ce que j'explique à un moment dans le livre, c'est que tout comme le roi a deux corps, un corps politique et un corps politique et spirituel et un corps humain, corporel, il y a une forme de corps de la reine. Il y a l'incarnation de la reine politique et l'incarnation de la femme aussi. Et on ne peut s'en prendre à l'un de ces corps sans s'en prendre au roi, à la cour, à la dynastie, au trône, à la monarchie française et donc à tout ce qui constitue 1000 ans d'histoire.
Il y a un débat auquel vous ne vous dérobez pas, Laurie Chavanet, c'est la question de la spontanéité ou de la manipulation de ces journées du 5 et 6 octobre 1789. Beaucoup, on le lit chez divers historiens, des gens sérieux, hein, pas, on parle pas d'hurluberlu, disent que les Orléans pourraient être derrière cette marche, qu'en fait il y avait des hommes déguisés en femmes qui étaient là pour conduire la troupe. Et vous disséquez, vous prenez au sérieux cette assertion, et vous lui faites une réponse, j'allais dire, en deux parties. Une partie d'analyse objective, et après une partie de réflexion sur ce que ça veut dire sur le corps politique, et évidemment la projection qu'on a du corps de la femme à ce moment-là.
Alors, je vous remercie pour cette question qui est essentielle sur les journées d'octobre 89. Est-ce que les femmes ont été instrumentalisées par les hommes ou ont-elles agi d'elles-mêmes spontanément? Michelet, Edgar Quinet, bref, l'école assez romantique du 19e prend fait et cause pour la spontanéité en expliquant que c'est ce degré de ressentiment, d'émotion collective, donc de spontanéité qui crée la singularité de 1789. Que ce soit la prise de la Bastille, les journées d'octobre, c'est cette dynamique, cet effet boule de neige qui est un déferlement de violence et une dynamique révolutionnaire à laquelle rien ne peut résister. Il faut savoir, à l'inverse, qu'il y a aussi une hypothèse tout aussi valable qui est que les journées d'octobre auraient donc été non pas spontanées, mais orchestrées d'en haut. Et non, si les femmes, les poissardes sont en bas, selon l'échelle sociale, économique, elles sont d'ailleurs aussi à l'égard entre hommes et femmes, le statut juridique et social, les femmes sont en bas dans la société de la monarchie du XVIIIe siècle. Et donc les femmes auraient été instrumentalisées. Il faut savoir, bien sûr, qu'il y a des origines à ces journées d'octobre. Il y a des causes qui remontent à loin, à savoir, par exemple, le désir que le roi et la reine viennent s'installer à Paris afin de les écarter des mauvaises langues, des mauvais conseillers trop contre-révolutionnaires de Versailles. En venant à Paris, ils seraient sous la protection du peuple.
Vous montrez d'ailleurs que quand ils sont contraints d'arriver à Paris, il y a une vraie attraction populaire pour venir les voir au balcon des Tuileries.
Bien sûr, ils sont très, très populaires ensuite. Cela ne se fait pas contre le couple royal en réalité, mais pour... peut-être pas leur redonner du prestige, mais pour les contraindre à se mettre à la tête de la Révolution comme père et mère. Je disais donc qu'il y a des origines aux journées d'octobre 89. Depuis longtemps, on demande la venue du roi et de la reine à Paris. Depuis longtemps, le peuple a faim. Et puis, il y a ces épisodes qui font douter de la spontanéité. Vous dites justement, ces hommes potentiellement déguisés en femmes. Alors j'aimerais peut-être m'exprimer dessus.
Oui, votre analyse est très intéressante.
Parce que c'est une part originale un peu nouvelle de mon travail de recherche. Il faut bien savoir d'où l'on parle. C'est-à-dire, qui sont les témoins ayant expliqué avoir vu des hommes déguisés en femmes? Déjà, il y en a beaucoup des témoins, premièrement. Ils sont nombreux à avoir affirmé avoir vu des hommes déguisés en femmes, de par la barbe, de par la musculature, de par les traits, etc., etc. Donc, sans doute, plusieurs étaient déguisés en femmes. Je veux dire, au bout d'un moment, quand il y en a 100 qui le disent, il y en a peut-être un qui a raison. Donc, c'est relativement crédible. Deuxièmement, il faut savoir que ces discours, ces dépositions tenues, se sont faites en 1790, lors d'une grande enquête diligentée par le tribunal du Châtelet afin de trouver les responsables des journées d'octobre. Parce que la thèse du complot est celle privilégiée par les partisans du trône, pour faire simple. Voilà, non pas de la contre-révolution, mais les partisans de l'ordre et de la réaction royaliste. Il y a toute une enquête donc au tribunal du Châtelet avec des centaines de dépositions de témoins que j'ai retrouvées aux archives. Alors c'est très difficile à lire, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de S à la place de F à la place des S, etc. On se perd un peu, mais à la loupe, on arrive à la fin. C'est une maïeutique intellectuelle où on arrive à dépatouiller tout ça. Donc j'ai retrouvé ces centaines de témoignages, pour beaucoup inédits. Lafayette, certaines femmes du peuple, c'est des choses qui ont pas été publiées, ni trouvées par certains chercheurs. Donc j'ai excavé tout cela et j'ai compris qu'en réalité, tous ces témoignages, dans une dynamique de critique des journées d'octobre et de démonstration du complot orchestré par des hauts dignitaires de l'Assemblée, tout cela était monté un peu en épingle par ceux qui instruisent le procès. Et donc, souvent, ceux qui disent avoir vu des hommes déguisés en femmes sont des avocats, des aristocrates, des gens assez haut placés dans la hiérarchie sociale qui n'ont jamais été à Versailles au moment des faits, ou qui n'étaient pas présents, ou qui n'ont... Ou ils auraient entendu des gens dire cela dans une conversation. Donc, bref, c'est jamais véritablement assuré. Et enfin... C'est mon hypothèse, un peu, le deuxième volet que vous évoquiez, à savoir que j'ai une petite hypothèse sur cette question-là, qui vient se greffer aux deux autres, potentiels complots, bien sûr, du duc d'Orléans et de le cousin du roi, Philippe d'Orléans, qui sera Philippe Égalité, et de Mirabeau. C'est vrai que les députés veulent forcer Louis XVI à ratifier la Déclaration des droits de l'homme. Et de l'autre côté, l'hypothèse de la spontanéité. Et donc, l'hypothèse que j'ai, c'est que, et d'ailleurs je me base sur de nombreuses sources de l'époque, c'est que beaucoup de femmes ressemblaient à des hommes. Alors, je ne veux pas dire cela de manière dérangeante ou insultante ou quoi que ce soit, je le dis. C'est au contraire tout à la gloire de ces femmes qui travaillaient beaucoup, qui étaient très loin des canons esthétiques, des aristocrates poudrés, fardés, avec la perruque enrubannée, voilà. Ce sont des femmes qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi nombreuses à Versailles. Et dans nombreux mémorialistes et témoins de l'époque, je pense à Louis-Sébastien Mercier, qui est le plus grand portraitiste de Paris du 18e, de cette fin du 18e, il explique avoir souvent vu ces femmes travailleuses porter des choses chargées comme des mules de poids incroyables, et qu'au fur et à mesure, leur corps s'était presque déformé. C'est-à-dire, elles avaient un dos voûté, elles étaient extraordinairement musclées. Beaucoup de poissardes, dans l'imaginaire d'ailleurs collectif, sont relativement fortes. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces femmes-là, je trouve, c'est tout à leur gloire d'être à la fois des travailleuses, des femmes qui ont faim, et qui pour autant ensuite sont insultées parce que elle travaille pour ressembler à des hommes. Je crois que il faut essayer de trouver l'équilibre entre ces trois hypothèses.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Je suis avec Loris Chavanet qui publie Les femmes entrent en révolution aux éditions Talendier. Cette troupe arrive à Versailles. D'abord, combien sont-elles? En rappelant que c'est une majorité de femmes tout de même. Et une fois arrivées dans la ville, après un mur d'eau, hein, vous décrivez, d'ailleurs, c'est amusant de noter que ces journées révolutionnaires se passent souvent sous l'eau. Mais bon, c'est une autre.
14 juillet, oui, il pleuvait, bien
14 sûr. Juillet. Et les journées de juin, je crois qu'il pleuvait également. Que font-elles une fois arrivées à Versailles? Puisque on peut voir l'événement, la longue marche que vous décrivez, difficile, avec des femmes qui n'ont pas mangé depuis 30 heures pour certaines d'entre elles. Une fois arrivées à côté de l'objectif, finalement dans la ville, quelle peut être leur réaction?
Alors, vous m'avez posé la question d'abord du nombre. On ne sait pas vraiment comment ça se passe le matin, à l'aube du 5 octobre. La légende veut qu'une jeune fille ayant pris un tambour dans un régiment de garde ait commencé à battre la générale, c'est-à-dire le rappel que le tocsin est sonné aux quatre coins de Paris et que de fil en aiguille, les femmes se soient réunies en cortège, notamment d'abord à l'hôtel de ville qu'elles prennent d'assaut. Elles pénètrent dans l'hôtel de ville, prennent plusieurs canons, de nombreux fusils, et donc c'est armé qu'elles se donnent rendez-vous à midi sur la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde. À l'époque, place de la Révolution. Elle allait devenir la place de la Révolution, et pour cause. Et donc elles sont plusieurs centaines le matin à s'unir, et elles sont déjà quelques milliers à peine à se réunir place Louis XV, et de là, le cortège s'étire par la route de Sèvres jusqu'à Versailles. Et sur la route de Versailles, et au moment où on se donne rendez-vous à midi place Louis XV, toutes les femmes vont dans Paris, dans tous les cabarets. On va chercher les prostituées, dans les artères bourgeoises, aristocratiques. On force des femmes en fiacre, j'ai envie de dire en carrosse, à marcher avec elles. Donc, il y a des femmes qui sont volontaires et des femmes qui sont forcées à marcher. Bon, cela fait beaucoup de monde à l'arrivée. Sur la route, elles prennent un peu de vin, de vivres, d'eau de vie, surtout, pour se donner du courage. Parce que quand on buvait à l'époque, c'était pas seulement, ai-je lu, sous la plume de Daniel Roche, immense historien du Paris et de la France des Lumières, il explique que la population boit autant, c'est parce que quand il n'y a pas à manger, on a besoin de calories. Et que dans l'eau de vie, il y a beaucoup de calories. Alors voilà, moi j'ai besoin de beaucoup de calories, disons. Donc le cortège s'ébranle jusqu'à Versailles, et elles arrivent à Versailles au moment où le roi rentre de la chasse, à peine. Il est revenu tambour battant, au grand galop, à Versailles, au château, tandis qu'il chassait le cerf dans le bois de Meudon. Et donc il n'y a pas eu d'ordre pris pour arrêter ces femmes, plus tôt. En l'absence du roi, personne ne prend sur lui la responsabilité de faire barrage à ses femmes, de créer une scène de guerre. Et Louis XVI ordonne, dès qu'il arrive, de ne pas ouvrir le feu sur ses femmes. Il a cette phrase, il dit « Des ordres de guerre sur des femmes, vous n'y pensez pas »,
dit-il ça à Narbonne,
à plusieurs de ses gardes, de la garde nationale ou des gardes du corps du roi. Exactement, il ordonne de ne rien faire. De juste fermer les grilles du château et de se tenir en rang devant. Or, les femmes arrivent. Elles sont entre 5 et 10 000 à Versailles. Bon, c'est-à-dire que, grosso modo, on ne sait pas. Mais elles sont plusieurs milliers, ça c'est certain. Il pleut. Elles ont marché pendant 6 heures, dans la boue, dans le froid. Et pendant tout ce trajet, elles chantent et elles dansent. Ça m'a beaucoup marqué que ces chants et ces danses de femmes affamées, criant misère, ayant peut-être et sans doute des objectifs politiques, voire étant politisées par des hommes, comme je l'ai dit, et ces femmes-là, en arrivant à Versailles, elles essaient tout de suite d'occuper les postes stratégiques. Alors il y en a une qui les pilote, c'est la reine de la Halle, comme on l'appelle, c'est Reine Audu. J'ai retrouvé son portrait, sa signature, sa gouaille. C'est assez magistral de retrouver quelqu'un comme ça, de tirer des rangs de l'anonymat des femmes de Paris, et elle laisse un bataillon de femmes, de ces Amazones de 89, devant l'Assemblée nationale. Beaucoup poussent pour entrer dans l'Assemblée et finiront même par entrer dans l'Assemblée. Elles dormiront la nuit au milieu des députés, l'Assemblée sera envahie, elles demanderont du pain, des députés les repousseront, d'autres les enlaceront, pour tout dire. Le cortège continue donc jusqu'au grille du château. Et là, il y a quelques escarmouches qui éclatent. Des gardes veulent charger à la cavalerie pour faire peur. Les femmes résistent. Un cheval est tué. Il sera même dévoré dans la nuit du 5 au 6 octobre sur la place du château de Versailles. Il sera dévoré presque cru. Parce qu'il pleut et c'est difficile à faire cuire sous la pluie un cheval. Et puis, donc, il y a des escarmouches. Un soldat est blessé. Des femmes sont blessées. Et petit à petit, le ton monte. Mais il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est seulement une révolte. Une manifestation frumentaire pour des questions économiques, même si ça a tout d'une démarche politique. Et Louis XVI est entouré au château de Versailles, de sa famille, mais le château est entouré d'un cercle de feu composé de ses femmes qui lui demandent du pain. Et c'est là où ça devient absolument majestueux, cette histoire, et tout à la gloire de Louis XVI. C'est que Louis XVI va recevoir ces femmes au château. Alors non pas les 2000 femmes, 3000 femmes qui sont là, les quelques milliers de femmes, mais une ambassade d'une douzaine de femmes sont autorisées à entrer au château avec le président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Mounier. Et ces femmes, quelques-unes sont introduites dans les appartements du roi. Et j'ai retrouvé aux archives le récit de ces événements faits par les actrices elles-mêmes de cet épisode. Alors, il y a là une bouquetière, il y a une lavandière, il y a une femme qui est élève en sculpture, apprentie sculpteuse. Il y a un peu de tout. Et ces femmes simples, en jupon, affamées, complètement trempées, grelottant, ce soir du 5 octobre 89, il y en a une, elle s'appelle Louison Chabris, et elle s'effondre dans les bras de Louis XVI, affamée, et puis... éclaboussé par la magie du faste du château de Versailles. Il faut bien imaginer ce que c'était. Traverser la galerie des glaces.
Elle émeut le roi, d'ailleurs, en ce moment.
Et elle émeut le roi, qui l'aurait relevé, lui aurait fait administrer des sels pour la réveiller, et lui aurait peut-être même donné un peu d'argent pour la réchauffer. j'ai retrouvé le récit de ces femmes qui demandent du pain. Louis XVI acquiesce, bien évidemment. Il leur signe un papier pour qu'elles aient du pain. C'est plus complexe que cela, parce que en réalité, Louis XVI leur promet du pain. Cette ambassade-là retourne sur la place d'armes du château de Versailles. Et les femmes, qui sont quelques milliers, ne les croient pas. Les accusent d'avoir été corrompues, achetées par le Louis XVI, et que jamais il y aura du pain, et que c'est de l'esbrouf, tout ça, qu'elles se sont faites avoir, et on essaie même de les pendre. Certaines femmes les plus radicales, les plus révoltées, veulent pendre les jeunes ambassadrices envoyées, évanouies dans les bras de Louis XVI. Et Louis XVI est finalement forcé de recevoir à nouveau ces femmes, ces jeunes filles, dont l'une, Louison Chabris, était réputée pour sa grande beauté. Elle devait avoir 17 ans, d'une très grande beauté. Et Louis XVI est obligé non seulement de leur signer un papier par lequel il reconnaît qu'il leur a pas donné d'argent, qu'il leur donne de donner des vivres au peuple de Paris. Et deuxièmement, Louis XVI est obligé aussi de se montrer au balcon du château de Versailles. Tout le monde, chaque personne qui va au château de Versailles voit très bien ce balcon. Il n'est pas très haut, il est à 3 mètres en hauteur. On peut presque escalader personnellement si on est un peu grand et véloce, ce qui n'est pas mon cas. Louis XVI s'affiche au coude, disons, de Louison Chabris, pour bien désigner aux femmes d'octobre qui sont sur la place d'armes qu'il est d'accord pour donner du pain et pour essayer de prendre ces jeunes filles sous sa protection. C'est pour cela que c'est intéressant de restituer heure par heure et sans idée préconçue ces journées d'octobre, parce qu'elles sont complexes. Il y a une diversité des femmes. Les plus radicales, qui veulent du sang, ne sont pas les mêmes qui sont de jeunes travailleuses qui font des bouquets de fleurs aux halles et qui, elles, sont très pures, animées de sentiments purs. Il faut pas non plus caricaturer cette masse, cette groupe de femmes au nom de la violence, parce que je pense que les plus radicales étaient les plus minoritaires dans ce groupe-là, de par mes recherches, j'ai découvert cela. Et donc, je crois que c'est très intéressant de revenir sur ces femmes d'octobre, parce qu'elles disent quelque chose et sur les femmes et sur la Révolution.
Nous allons faire une toute petite pause musicale et nous reprenons ce récit avec Laurie Chavanet à l'occasion de la publication de son ouvrage « Les femmes entrent en révolution » aux éditions Talendier.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Le château va finir par s'endormir. Laurie Chavanet, nous sommes au soir du 5 octobre 1789. Et là, nous avons plusieurs faits intrigants ou surprenants qui méritent une analyse. On va revenir sur deux faits principaux. D'abord, comment se fait-il que vers les 6 heures du matin, le lendemain, des femmes parviennent à entrer dans les appartements, ou à accéder aux appartements royaux, au château d'abord et aux appartements royaux en plus. Et deuxième question, j'allais dire encore plus étonnante, comment se fait-il qu'après cette journée où elle est vilipendée, où elle est mise au défi, Marie-Antoinette ait choisi de dormir loin de son mari et loin de la protection de la personne inviolable du roi.
Alors on entre dans la nuit. Le soleil vient de tomber sur Versailles. À ce moment-là, vers minuit, Lafayette arrive avec les gardes nationaux parisiens, plusieurs dizaines de milliers de soldats et de parisiens qui arrivent à Versailles et qui viennent compléter tous les régiments du premier cortège, d'hommes et de femmes. Donc, bref, Versailles est bondé quand il fait nuit. Et pendant cette nuit-là, les fantômes se réveillent, si vous voulez. Un des fantômes, c'est bien sûr, j'ai envie de dire, le mythe de Fersen et de Marie-Antoinette que vous évoquez entre les lignes. Marie-Antoinette dort sans doute dans sa chambre d'apparat, où elle est, où d'ailleurs régulièrement, Je tiens cela d'une conservatrice, Hélène Delalex, que j'ai le plaisir de citer, au château de Versailles, qui me dit souvent, on laisse entrouverte la porte derrière le lit de la reine afin de montrer aux touristes qui passent, à l'afflux de touristes, faudrait-il dire, par où la reine s'est enfuie à l'aube du 6 octobre. Parce que c'est un épisode célébrissime de la Révolution française. Alors la reine, c'est vrai, n'a pas voulu dormir auprès de ses enfants, et elle a même donné l'ordre de conduire ses enfants auprès de son époux, en cas de problème. C'est relativement mystérieux. Cependant, comment reprocher à Marie-Antoinette de vouloir préserver la vie de ses enfants? On sait que le roi n'est pas la cible privilégiée, que s'il y a une cible, c'est d'abord elle. Pendant toute la journée, elle a entendu les femmes aux grilles du château en train de l'insulter. On va faire des boyaux, on va faire des cocardes avec tes boyaux, on va te faire danser, on va t'égorger, etc., etc. Toute la journée, elle a entendu ces insultes. Et on a des témoignages qui racontent cela. Pour autant, Marie-Antoinette refuse par ailleurs que ces dames d'honneur dorment avec elle, parce que coutumièrement, c'était le cas. Et elle refuse que des gardes la protègent à proximité de sa chambre, autour de sa chambre. Donc bref, elle se retrouve seule la nuit du 5 au 6 octobre, avec l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse parce que cela ne se décrète pas, que peut-être Fersen, le beau suédois militaire Fersen, ait dormi. Alors, avec Marie-Antoinette, on ne sait pas. On ose imaginer. Mais peut-être dans la chambre qu'il s'était faite aménager au dernier étage des petits appartements privés de Marie-Antoinette, où il a fait aménager un poêle suédois pour lui. Donc on savait que Fersen dormait régulièrement dans les petits appartements privés de Marie-Antoinette, où même certains domestiques n'avaient pas accès. C'était le cœur de la vie privée de Marie-Antoinette. J'ai eu la chance de visiter ces appartements privés de Marie-Antoinette. Ils sont très obscurs, c'est là où il y a la méridienne, il y a de très belles petites salles. C'est pas du tout le faste et la lumière de Versailles. Et au contraire, c'est dans une courette exiguë, où les fenêtres rendent une lumière tamisée, grisâtre. C'est pas du tout agréable. Et on comprend pourquoi Marie-Antoinette voulait aller à Trianon vivre et être libre, parce que c'est la lumière, c'est la nature, c'est la liberté. Et donc Marie-Antoinette, le matin à l'aube du 6 octobre 89, est réveillée par sa dame d'honneur, qui a dormi contre la porte de sa chambre, qui l'avertit que des femmes et des hommes sont en train de pénétrer dans le château et de livrer une guerre aux gardes qui ne pourront résister. Et donc les appartements de Marie-Antoinette sont envahis. Les gardes sont d'ailleurs assassinés pour certains. Je pense aux valeureux Desutes et Varicourt qui combattent et sont décapités par la foule insurgée, ivre de sang, qui cherche Marie-Antoinette dans ses appartements. Pourquoi faire ? Pourquoi on cherche à décapiter des gardes, si ce n'est pour ensuite décapiter déjà la reine ? La vie de la reine est en danger. Elle parvient à s'enfuir par cette petite porte. Et Marie-Antoinette retrouve les appartements de Louis XVI. Et ensuite, il y aura un épisode fameux plus tard où, devenue la reine honnie et maudite, qu'on voulait pour certains et certaines assassiner, elle va gagner en gloire et en prestige à l'issue de cette journée avec un courage et un rayonnement, une dignité vraiment admirables qui font que Zweig admire à juste titre cette Marie-Antoinette-là. Et puis, vous avez cité d'autres événements du 6 octobre. Il y a bien sûr l'assassinat, il y aura bien sûr la reconduite à Paris. Mais la scène fameuse, là, donc, que je viens de citer, c'est au moment où le château est envahi, où la cour de marbre est noire de monde, et que les têtes des gardes assassinés sont plantées au-dessus de pics. Marie-Antoinette et Louis XVI sont sommés par la foule de se présenter au balcon. Au balcon qui efface là, à 3 mètres en hauteur, des baïonnettes et des fusils. N'importe qui peut ouvrir le feu et tuer le roi ou la reine s'il se montre au balcon.
Et la présence de fusils, vous l'avez dit, est tout à fait attestée et présente.
Bien sûr, le danger est réel pour le roi et la reine, mais ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont attaqué le château et envahi le château, qui ont pénétré dans le château. Dans les cours internes du château, derrière les grilles. Donc, la garde nationale confiée à Lafayette, le général Morphée, parce qu'il n'avait pas su défendre bien le château, de même que les gardes royaux et les gardes du corps qui sont menacés d'être tous exterminés, passés au fil de l'épée, ne suffisent pas pour défendre la famille royale, qui se retrouve désarmée en quelque sorte. Et Louis XVI demande l'aide de l'Assemblée nationale, que celle-ci vienne siéger au château pour lui apporter réconfort et des renforts. Mirabeau refuse. Non, le roi se débrouille. Ce n'est pas aux législatives d'aller se présenter à l'exécutif. Quelques hommes suffiront pour aller assurer le roi de la bienveillance de l'Assemblée. Et le roi et la reine sont donc forcés par la foule et sur les conseils de Lafayette à se présenter au balcon. Le roi se présente, il est acclamé. On demande la reine. La reine finit par se présenter. Et elle prend le dauphin dans ses bras et sa fille par la main au balcon. Pourquoi les prend-elle ? Est-ce pour avoir un rempart, pour ne pas qu'on tire sur elle ? J'imagine pas la scène. J'imagine que c'est par amour pour sa famille. En tout cas, elle met en danger la vie de ses enfants. Et elle décide, puisque la foule désire qu'elle soit seule, et elle finit par se montrer seule au balcon, d'apparaître seule avec Lafayette à ses côtés. Lafayette qui lui fait un baise-main, une révérence. et la foule acclame la reine qui, pendant un instant, a été la proie des assassins, des baïonnettes, des coups de fusil, il y a des canons. Et la reine a donc joué avec la mort à ce moment-là, et au contraire d'être assassinée, elle est louée, elle est applaudie. Vive le roi, vive la reine, qui aurait pu imaginer à l'aube de ce 6 octobre, froid, glacial, la reine fuyant à demi nue pour éviter d'être massacrée, que quelques heures plus tard, elle serait acclamée. Mais Marie-Antoinette, j'ai lu les archives et les mémorialistes, une fois qu'elle passe le balcon pour revenir au sein des appartements, elle s'effondre en larmes.
Elle s'effondre en larmes et elle va ne plus revoir Versailles, puisque bientôt le roi et la reine sont ramenés manu militari à Paris. Alors manu militari, c'est peut-être un peu exagéré, vous décrivez d'ailleurs cette foule assez hétéroclite qui rentre à la capitale et qui va aller aux Tuileries. À partir de ce moment-là, deux éléments. Louis XVI, d'une certaine manière, ne fera plus que céder. On n'a pas eu le temps de revenir dessus, mais il a eu l'occasion, le 5, de partir, de s'enfuir. Mais il a pris sa décision trop tard. Et surtout, vous analysez de manière assez pointue le fait que il y a un aspect presque léthargique ou dépressif de Louis XVI aux Tuileries. Et là, c'est presque Marie-Antoinette qui prend la politique en main.
Alors Louis XVI va se révéler ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un roi bon et faible. faible de caractère, bon de cœur, et d'ailleurs un grand esprit éclairé, très, très érudit, très cultivé. Mais vous enlevez le caractère à un roi, il lui manque presque l'essentiel, c'est-à-dire l'art et la volonté d'une décision. Et Louis XVI est incapable de décision. D'ailleurs, là, vous l'avez cité, la nuit du 5 au 6 octobre, il donne des ordres pour fuir le château, et puis ensuite il change d'ordre l'instant suivant, et puis il se met dans la main de la reine, qui décide presque pour lui. Comme disait méchamment Mirabeau, le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme, c'est la reine. Parce qu'elle, elle a le caractère, elle a le courage. Elle a été éduquée à l'adversité avec toutes les cabales dont elle a été la proie, la victime, pendant les 20 dernières années. Et donc Marie-Antoinette est digne d'éloge de ce point de vue-là parce qu'elle sait que la révolution va être entraîner le drame de sa famille et la tragédie de sa famille. Et quand on y pense, la reine pleure le 6 octobre en abandonnant Trianon et le château de Versailles derrière elle, qu'elle ne reverra plus, pour le château des Tuileries, terne, froid, qui est gris, dont les lits ne sont pas faits, les meubles ne sont pas brossés, c'est poussiéreux, c'est tout ce qu'elle déteste. Et c'est au centre de Paris. Elle est au bal à Paris, mais là, c'est un bal révolutionnaire qui l'attend. Et Marie-Antoinette va effectivement se mettre à ce moment-là un peu à la tête du parti du trône, en conseillant Louis XVI. C'est d'ailleurs elle qui va conseiller à Louis XVI la fuite de Varennes, bien trop tard, en juin 1791, tant et si bien même, c'est elle qui l'organise, qu'elle a confié à son supposé amant, l'homme qu'elle aimait, pour de vrai, Fersen, d'organiser la fuite à Varennes. C'est l'amant de Marie-Antoinette qui organise la fuite à Varennes, qui sera un échec.
D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il est là, aux Tuileries, quand elle arrive, et qu'il faut que l'entourage royal lui dise « Non, ben, c'est pas le moment de vous montrer ».
Je suis ravi de voir que vous avez pas seulement lu le livre, mais très bien lu le livre. Vous le connaissez mieux que moi. Vous pouvez en parler abondamment. Merci beaucoup. C'est assez beau pour être souligné. Fersen s'est précipité aux Tuileries lorsque la reine arrive. Il est déjà là avant qu'elle arrive même. Et ce sont des conseillers, des ministres, Saint-Priest notamment, qui disent à Fersen « Mais que faites-vous là, monsieur? Êtes-vous fou? Vous voulez la mort de la reine? Vous voulez la précipiter au tombeau? En étant là, lui causer plus de grabuges que cela? Fuyez, monsieur, vous reviendrez. » Et puis Fersen et Marie-Antoinette ne peuvent plus désormais se voir comme ils se voyaient avant. Désormais, Marie-Antoinette, chassée du château de Versailles, est aussi éloignée de l'homme qu'elle aime, on le sait par sa correspondance.
Vous avez une phrase terrible, vous écrivez « Les Tuileries sont pour Marie-Antoinette un avant-goût de la prison du Temple ».
C'est ainsi qu'elle le vit. puisque privé de Versailles, privé de liberté, privé de gaieté, privé de tout, presque, il ne lui reste plus que la politique, pourrions-nous dire, pour se divertir, pour offrir un divertissement. Un divertissement ô combien périlleux, puisqu'elle finira par être, en octobre 1793, envoyée à l'échafaud, après un procès inique, insultant, plutôt insultant pour ses accusateurs, je trouve, que pour l'accusé, puisqu'on a attaqué sa féminité, sa maternité, en l'accusant d'avoir eu des gestes à l'intention de son fils qui sont complètement immoraux, et donc incestueux. Et donc Marie-Antoinette est grandie. C'est ce que dit d'ailleurs Stefan Zweig. Il dit que Marie-Antoinette est grande à deux moments de son histoire, vraiment. C'est au moment où elle est sur le balcon, le 6 octobre 89, et au moment de son procès où elle est à la barre du tribunal révolutionnaire. On a envie d'ajouter une troisième fois, c'est sur l'échafaud, où elle affronte ce par quoi nous passons tous, mais elle, c'est bien plus violent, bien évidemment, et la reine se montre digne dans les périodes de crise, parce que, comme je l'ai dit, elle connaissait l'adversité, elle avait du caractère, et on lui reprochera d'ailleurs à son procès beaucoup de choses, dont sa conduite au moment du bal du banquet de 1789, d'octobre 89, où elle n'avait fait que, par ennui, se présenter à une fête qui se déroulait chez elle, puisque c'était son château. On ne peut pas reprocher à une femme qui s'ennuie, mariée, d'aller assister à une fête chez elle.
Et puis qui, après tout, est l'hôte de la fête.
Absolument.
Quelle est la mémoire de ces femmes qui sont allées à Versailles chercher le roi et puis le ramener? Alors, on l'a dit, vous les citez, les mémorialistes sont choqués à la fois de leur accoutrement, de leur faciès, de la violence de la scène. On peut facilement imaginer une nuit de pluie avec des milliers de personnes réunies devant le château de Versailles avec le vin et la fureur, on comprend bien. Mais ce n'est pas non plus rendre justice à la mémoire de toutes ces femmes. Et vous semblez presque dire que cette irruption des femmes, si elle va être déterminante et qu'elle ne s'arrêtera jamais, elle est aussi vite évacuée par ceux qui reprennent en main le cours des événements révolutionnaires.
En réalité, au lendemain des journées d'octobre, Marie-Antoinette écrit « On ne devinera jamais ce que j'ai vécu pendant ces dernières 48 heures ». Et pour certains conseillers, c'est même déjà l'épilogue de la monarchie, pour Burke notamment.
Qui décide d'écrire
sur la Révolution française au lendemain des journées d'octobre, parce qu'il comprend que c'est pas seulement une crise institutionnelle, c'est une crise de société, une crise d'époque, c'est la fin d'une époque. Et qu'on bascule dans quelque chose qui pour lui, sera regrettablement un déclin et une perte de dignité de la fonction politique, quelle qu'elle soit, royale en tout cas. En réalité, je disais donc, au lendemain des journées d'octobre, ces femmes qui sont entrées en révolution auront trois actes de leur destin. Le premier, c'est d'être reconnues, héroïsées par la Commune de Paris. Quand elles rentrent à Paris, elles sont véritablement les reines de Paris, ces poissardes. Tous les jours, elles vont rendre visite à la reine. « Eh, la reine, montre-toi au balcon, on a un mot à te dire, on t'applaudit. » Mais elles font la loi dans les rues de Paris et même au palais. Ces poissardes auxquelles on décerne des médailles frappées par la Commune de Paris. Deuxièmement, après avoir été héroïsées dans la presse, etc., ces femmes, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une enquête, une instruction pour savoir les parts de responsabilité des hommes et des femmes dans ces événements. Et les deux seules personnes qui seront persécutées, emprisonnées pour ces agissements d'octobre 89, ce ne seront pas Mirabeau et le duc d'Orléans qui se débrouillent très bien, ce seront au contraire deux femmes. Reine Audu, celle que j'ai citée tout à l'heure, la reine de la Halle, et une deuxième figure féminine dont je trace un abondant portrait dans le livre, Théroigne de Méricourt.
Alors, dites-nous quelques mots de cette Belge exilée en France.
Cette magnifique Amazone qui s'habillait à la garçonne dans le Paris révolutionnaire, qui assiste à chaque débat, à chaque séance de l'Assemblée nationale, alors qu'au début, elle ne parlait pas français. Elle était d'origine de Liège, de Belgique. Elle était fille de paysans. Elle n'a pas eu d'instruction. Et puis, de fil en aiguille dans sa vie, elle a été éduquée par une Anglaise à l'art de la musique, à la conversation, à la grâce. Et elle est si belle qu'elle a fait fortune, pour tout dire. Et elle tient un salon dans le Paris révolutionnaire. Et Thérouanne de Méricourt a la particularité de se montrer, de s'afficher physiquement par ses habits, son habit d'Amazone.
Oui, elle est repérable.
Elle est immédiatement repérable. Il faut dire, elle a un petit chapeau avec une énorme plume qui fait quasiment un mètre au-dessus de son chapeau, de son couvre-chef. Et alors, elle en a une noire, une rouge, une blanche. Elle sait jouer de son charme, de ses charmes, et sur les hommes, mais aussi sur la foule. Comme dit Edgar Quinet, il a une très jolie phrase. Edgar Quinet, l'historien du 19e, il dit « Ce n'est pas la beauté qui agit sur la foule, c'est l'extraordinaire. » Mais Thérouanne, elle a les deux. Elle a et la beauté et l'extraordinaire. Une femme très indépendante, conquise aux idées de 89, de l'égalité, de la liberté, et qui se sent française, presque plus que les Français eux-mêmes. Souvent, c'est le cas. Des gens tombent amoureux de la France par l'universalisme des valeurs défendues. En tout cas, c'est le cas en 89. C'est un lot d'espérance pour beaucoup de gens que cette révolution française. Et puis, donc, Thérouanne de Méricourt va finir, elle aussi, emprisonnée, comme Reynaudu, en 1790. Elle est même exilée. Elle est forcée de s'exiler chez elle, en Belgique. Elle est enlevée, arrêtée, traduite dans un château en prison, donc, à Vienne, pendant plus d'un an. Elle devient presque folle en prison. Elle perd tout sens. Elle n'a pas d'avocat. C'est un procès à charge qui est instruit contre elle. Elle n'a pas d'amis, elle est visitée par personne. Mais un jour, elle a le droit d'être reçue au château par l'empereur Léopold, l'empereur d'Autriche, qui a entendu parler de cette femme qui est devenue célèbre à Paris et qui est devenue célèbre finalement à Vienne au moment où Mozart joue encore de la musique ou écrit le Requiem. Thérouanne de Méricourt est en prison. Et elle va sortir de prison. Léopold va l'autoriser à sortir de prison pour s'exercer à la musique dans Vienne. Peut-être a-t-elle rencontré Mozart. Et puis ensuite, il l'autorise à quitter le territoire. Et c'est le troisième moment de ces femmes, après l'héroïsation, après la persécution. C'est la nouvelle glorification lorsque le château des Tuileries tombe, lorsque Thérouanne de Méricourt rentre à Paris avec Reynaudu. Les clubs populaires, les institutions leur offrent des sabres, leur offrent des couronnes, des lauriers civiques, les reconnaissent pour des citoyennes. Et donc c'est le troisième moment de ces femmes, même si le 19e siècle, ne l'oublions pas, va considérer que l'immixtion des femmes sur la scène politique en octobre est la démonstration qu'il faut vraiment les écarter de la politique parce qu'elles sont capables de violence, qu'elles sont capables d'hystérie. Je cite un peu un terme de l'époque. D'ailleurs, hystérisme vient d'utérus. Oui. La femme est hystérique parce que sa nature la pousse à être hystérique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le naturalisme rousseauiste qu'il avait défini comme tel.
Rousseau a des mots terribles pour les femmes.
Rousseau est très, très, très méchant à l'égard de l'éducation des femmes, qu'il leur refuse, par exemple. Les Lumières n'ont pas été très dignes pour les femmes, mais il ne faut jamais oublier ceux qui ont un temps d'avance sur leur époque. J'ai envie de citer Condorcet, bien sûr, aujourd'hui à l'Académie française, le Girondin, le philosophe, l'académicien Condorcet, qui a défendu les droits des femmes en 1790. C'est finalement après la Seconde Guerre mondiale qu'elles auront le droit de vote, et je crois que c'est bien légitime.
3 minutes, il y a un portrait qu'on n'a pas fait et que vous évoquez régulièrement, c'est Olympe de Gouges. Mmh. Et notamment, j'ai trouvé c'est assez ignoré, hein, la grande sensibilité qu'elle a pour la figure de Marie-Antoinette également dans son analyse. Olympe de Gouges ne communie pas du tout aux diatribes contre Marie-Antoinette.
Mais Marie-Antoinette, au détour de son existence, est devenue, même dans la postérité, une figure du féminisme. Déjà parce que c'est une femme exécutée, tuée, assassinée, on peut dire judiciairement, et sur la guillotine. Et puis l'incarnation d'une femme rebelle, indépendante, qui avait le goût des arts, de la mode, en tout cas. Et c'est la personne féminine la plus incarnée à l'écran dans le monde entier depuis. C'est exceptionnel, la popularité de Marie-Antoinette. À Londres, il y a une exposition. Dès qu'il se passe quelque chose à Paris ou dans le monde ailleurs, c'est Marie-Antoinette. Je suis allé en Corée du Sud. Quand on m'a rencontré, on m'a dit « Ah, alors, tu connais Marie-Antoinette ?» J'ai répondu « Oui, je la connais justement très bien. » C'est une intime. Et Olympe de Gouges a d'ailleurs dédié sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à Marie-Antoinette, afin que Marie-Antoinette soit sa protectrice pour défendre la Déclaration des droits de la femme. Bon, les deux ont été livrés à l'échafaud à quelques jours près. L'histoire a été cruelle envers ces femmes entrées en révolution et qui en sont assez vite sorties. C'est l'injustice des hommes de la Révolution française, des montagnards, des jacobins, de ne pas avoir été reconnaissants. Au contraire, les quelques clubs politiques, les quelques droits qu'ils leur avaient donnés, ils leur ont retirés. Même si, n'oublions pas, la Révolution française a concédé, ou en tout cas reconnu, les droits naturels de la femme, certains droits civils, pas de droits politiques, mais le droit au divorce, le droit d'hériter, le droit de passer des contrats. Et Napoléon ne sera pas forcément plus agréable que l'ancien régime l'avait été avec elle.
Vous avez tout cela à découvrir et bien plus dans l'ouvrage de Laurie Chavanet, Les femmes entrent en révolution, 5-6 octobre 1789 aux éditions Talendier. C'est un des meilleurs livres d'histoire de cette année. Je ne peux que vous le recommander. Je remercie Claudia à la technique pour nous avoir accompagnés dans cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats.
D'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 6 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 11 mars de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.